Quelle est la chose la plus importante dans le rock'n'roll ? Avoir de bonnes chaussures. La réponse est signée Arnaud, l'homme qui a déjà, et sans doute, battu le record de concerts donnés dans une vie. La première fois qu'Arnaud s'est retrouvé dans un studio pour enregistrer de la musique, c'était il y a 50 ans pile. Ça s'est fait dans le réfectoire d'une école de jeunes filles. Aujourd'hui, il termine un nouvel album, tandis que le précédent a été publié il y a moins d'un an. Le disque s'intitule « Vivre » et il offre une version dépouillée des chansons d'Arnaud. Un piano, une guitare basse et sa voix. Des versions qui mettent ses textes en gros plan, la langue qu'il a inventée en les mélangeant toutes. C'est l'histoire d'un gamin né dans la ville la plus britannique de Belgique, Ostende. Dans les années 60, il y avait des touristes anglais et surtout des groupes qui venaient jouer à Ostende. Et puis il y avait Radio Caroline, radio pirate, qui diffusait la bonne parole du rock'n'roll. Arnaud a été connecté à cette bande-son, faite de Bob Dylan, des Rolling Stones ou des Kings, tout de suite. Ça l'a façonné, autant qu'Edith Piaf ou le tango. Jusqu'à midi, on va zigzaguer dans 50 ans de répertoire, plus de 200 chansons, dont celle-ci qui dit « Il y a des gens qui parlent beaucoup, mais ne disent rien du tout. Putain, putain, c'est vachement bien. Nous sommes quand même tous des Européens. » Bonjour, bienvenue, c'est Pop & Co.
France Inter, Rebecca Manzoni. Pop & Co.
Bruxelles, un dimanche de mars 2022. L'Archiduc, c'est le nom du bar. Sur la façade, le nom est écrit au néon bleu. Arnaud est à sa place habituelle, face à la porte d'entrée et planqué derrière le piano.
C'est un décor, hein ?
Yeah. C'est le meilleur.
Tu peux avoir du lait ?
Yeah.
Et encore. Ça va, vive les vaches. Hein ? Mais dans le temps, j'étais cuisinier. Je suis accro à la musique depuis quand j'étais 8 ans. Parce que j'ai un copain, aussi de mon âge, il a eu deux sœurs de teenagers. Ils ont de 45 tours. La première fois que j'ai écouté One Night With You de Elvis Presley, j'étais accro.
Le gamin qui découvre Elvis à 8 ans est né en 1949 à Ostende sous le nom de Arnold Charles Ernest Hitchens. Il a des origines anglaises par son père, françaises par sa mère et on parle l'ostendais à la maison. Il est super bon au foot mais a tendance à partir au milieu du match parce qu'il ne supporte pas la pression.
À l'école non plus, ça ne marchait pas. Il avait un problème de bégaiement.
Je vous présente Peter Van Tinghem, journaliste au quotidien belge de Standard et auteur d'une trilogie documentaire sur Arnaud.
Par exemple, il m'a raconté que quand il devait donner un speech à l'école, dans la classe, qui devait prendre 10 minutes, pour lui, ça prenait une heure. Il n'osait pas aller au boulanger pour acheter du pain, à peur que les gens allaient rire avec lui. Donc, je pense qu'un garçon comme ça, qui a honte de cette condition, cherche un moyen, un terrain nouveau où il peut se montrer. Alors, son père lui a encouragé d'entrer dans une école pour devenir chef, donc pour entrer dans la cuisine. Il a travaillé quelques années comme sous-chef dans des bons restaurants et il pouvait faire du carrière là, mais ça ne lui convenait pas. Et à un certain moment, dans cette école, il y a un prof qui a amené un tourne-disque et quelques disques du chanteur blues. Et je connais ce professeur, Hubert de Clare. Et Hubert disait, il y en avait un dans cette classe qui tout d'un coup se réveillait et qui, après la classe, venait pour me dire, c'est ça que je veux faire. Seulement ça. C'était Arnaud. Et donc Hubert lui a donné 5 disques vinyles et ce sont les trésors qui ont vraiment encouragé Arnaud de devenir chanteur plus tard.
J'habitais à Ostende et on fait aller-retour à Londres. Et je connais ça, tous les clubs à Londres. Ouais, c'était les années 60, les années 70, c'était la pilule existe et on sonne dans la porte, sans téléphone, sans truc, et on fait autostop à Kathmandu, et c'était dans le temps, c'était la liberté. J'ai eu de la chance. Mon père, il a eu une guerre, mon grand-père d'eux. Et notre génération n'a pas eu une guerre. Hein. Et la musique, il m'a aidé pour plein de choses, quoi.
La musique, elle vous a aidé pour quoi, alors ?
À vivre en paix et content. Oh, j'ai eu de la chance.
Après sa découverte du blues à l'école hôtelière, Arnaud commence donc à jouer dans ce registre. Son premier disque paraît en 1972 sous le nom de l'un de ses premiers groupes, Freckle Face, tache de rousseur en français dans le texte. L'enregistrement se passe dans le réfectoire d'une école pour jeunes filles au centre de Gand. Arnaud est à l'harmonica et pour deux morceaux, dont celui-ci, il est au chant aussi.
Trouble in mind, I'm blue, and it won't be blue always, 'cause the sun's gonna shine in my back door someday.
Est-ce qu'on l'a encouragé à chanter?
Eh bien, pas vraiment au début, puisqu'il avait une voix très aiguë qui était assez étrange et pas normale, puisque le blues rock, c'était un style qui s'orientait vers les chanteurs de blues américains qui ont des voix très graves, quoi, et très rustiques. Tandis qu'Arnaud chantait très haut. Et il y avait beaucoup de gens qui pensaient que c'était un mauvais chanteur. Et la légende veut que des gens, au début, lui ont même offert de l'argent pour se taire. Mais il faut dire aussi que son grand copain musical à ce moment, c'était Paul de Coutereux. Paul, c'était un très bon guitariste qui l'a encouragé parce qu'il disait « Arnaud chante toujours dans le rythme et deuxièmement, il ne produit jamais de fausses notes. Tout le reste, c'est personnel. C'est son style. »
Je ne suis pas un chanteur comme Pavarotti, quoi.
C'est Arnaud, dans l'émission Éclectique, le 12 septembre 2010.
Je n'ai pas une voix belle, quoi. Hein? Donc, je ne suis pas un petit oiseau qui chante. Hein?
Ça vous gênait au départ ou pas?
Des autres, oui. Et maintenant, c'est trop tard pour changer aussi, hein? Une vache dont de lait, pas de champagne, hein. Donc moi je fais ça à ma façon, quoi. Tu vois le bazar?
Mais surtout, il était là pour raconter des blagues entre les morceaux.
Peter Van Tinghem, journaliste.
Bon, le truc c'est, quand on voit Arnaud en concert, on voit qu'il n'a jamais abandonné ça. Il a toujours continué à raconter des histoires un peu bizarres entre les chansons. Mais aussi dans ses interviews, ses apparitions aux radios et à la télé, il y a toujours un peu un aspect clown. C'est une chose qu'on aime beaucoup en Belgique. Ça fait qu'un star se diminue un peu, qu'il ne se prend pas au sérieux.
Je refais la chanson.
Septembre 2019.
Inspiré.
Arnaud est en concert sur Inter.
Ouais, le titre, c'est inspiré par ma grand-mère. Parce que quand elle a dit une fois une phrase, j'étais dans la cuisine, elle était en train de parler avec ses copines. Elle dit, les hommes, oui. Les hommes, quand ils jouissent, c'est comme les oiseaux, chip-chip, et c'est fini. Donc on va faire chip-chip.
J'étais dans la salle ce jour-là, et je m'étais dit que n'importe quel rocker ou bluesman ne risquerait pas de mettre sa crédibilité en jeu en parlant de la vie sexuelle de sa grand-mère.
Je pense qu'Arnaud n'a jamais cherché une crédibilité rock. Par exemple, quand il était dans son premier vrai groupe, Chance Cooter, il jouait du blues rock, mais il jouait aussi des morceaux qu'on peut indiquer un peu comme la kermesse.
Août 1975, Arnaud se retrouve à enregistrer un 45 tours avec un nouveau groupe, c'est Chance Cooter, soit Arnaud Hitchens et Paul Cooter. L'identité du groupe, c'est du blues rock, toujours. Enfin, pas tout à fait. Chance Cooter enregistre ceci. Saturday Night Queen.
She wants to be Rockefeller's daughter and looks like Marlene Dietrich. She shakes with her hips and shakes with her tits and counts the days of the week. Every Saturday afternoon she does her makeup, 'cause she wants to be the queen of the night. Oh yes, the queen of the night.
Saturday Night Queen, c'était un tango. Il a toujours trouvé ça aussi authentique qu'un chanteur américain de blues ou comme un groupe britannique, quoi. Et il les a mélangés, tu vois. Donc, quand il était avec Chance Cooter, c'était pas du tout commun et souhaité qu'un tel groupe, qui devait avoir une crédibilité blues-rock, jouait un tango. C'est typiquement Arnaud. Il ne veut pas jouer un rôle, il ne veut pas imiter, il veut être Arnaud, et Arnaud, c'est un mélange de toutes les influences qu'il a eues dans sa vie. En France, vous avez la distinction entre la chanson et la variété. Arnaud n'avait aucun problème de mélanger la variété avec le blues, par exemple.
She's a Saturday night queen. Yes, you know what I mean. That poor only queen. Nothing is real. Go, she lives in a dream.
À la sortie de ce Saturday Night Queen, dans le journal Télé Moustique, on lit « C'est tellement atroce que ça devient irrésistible. » Surtout après quelques verres derrière la crevette.
Sûrement, il y a des gens qui sont peut-être plus intéressés à mon personnage que dans ma musique, ou qui n'aiment pas ma musique parce que j'ai un personnage comme ça. Peut-être c'est aussi ça. Mais ça, quand tu passes à la radio, à la télé, dans la presse, ça c'est le risque que tu prends, quoi. Et c'est comme ça, tu peux... Écoute, je veux pas que tout le monde m'aime non plus, hein. Parce que j'aime pas tout le monde non plus. Et je veux pas que tout le monde est comme moi, parce qu'on va être vraiment dans la merde.
1979, il y a un poster d'Elvis et un autre de Charlie Chaplin épinglé au mur de sa chambre. Il a dégoté l'endroit grâce à une fiancée. Je le précise parce qu'à ce moment-là, et pour plusieurs années encore, la vie de musicien d'Arnaud, c'est la misère. On dit précarité aujourd'hui. Mais il s'en fout. Ce qui compte, c'est la musique. Pour l'heure, l'idée est d'inventer un nouveau son. Et pour ça, ils fondent encore un nouveau groupe. C'est TC Matic. En 1981, ils se font connaître avec ceci. Oh là là, devenu un classique du rock belge depuis.
Oh, yeah.
Matic, c'est le nom du groupe.
Oh là là là.
Et Matic, ça vient d'où?
Oh là là là.
C'est le nom d'un écrivain surréaliste serbe et Arno le présente comme ceci. Comme nous, Matic parle des gens qui ont des problèmes avec la réalité. 1983. Arno est invité sur le plateau de la RTBF.
J'avais sûrement déjà reconnu Arno qui se trouve... Ah mais non, vous ne le voyez pas, alors comment pourriez-vous l'avoir reconnu? Toi comme ça là, oui.
Ah, oui.
Voilà, Arno de Tissimatic, parce que je ne vous l'ai pas dit. Mais Tissimatic est en direct sur ce plateau de Génération 80.
Truc,
voilà. Alors Arno, j'ai lu quelque part que la musique de Tissimatic se rapprochait plus de Béla Bartók que de Chuck Berry. Qu'est-ce que ça veut dire ça?
Mais le rythme est plutôt Chuck Berry donc noir. Le mélodie c'est plutôt... Bartók, quoi, oui.
C'est ça. Alors j'ai lu aussi que vous aviez dit que vous ne chantiez pas, que les oiseaux chantent, mais vous pas.
Oui, et j'aime pas les gens qui chantent. Parce que les gens qui chantent, ils pensent trop à leur voix. Et j'ai plus de voix vocales, ce sont des cordes en métal.
Ah, c'est ça. C'est intéressant.
Oh, merde, j'ai une crampe.
Avec Chen Scooter, il a fait des concerts aux États-Unis. Et là, il s'est réalisé qu'il était en train de faire une imitation du blues rock américain. Et ce n'était pas ce qu'il voulait. Puisqu'il pensait, je dois être moi-même, je dois être authentique. Il avait en fait un grand plan. Il voulait faire une musique européenne. Donc, il allait mélanger le funk de James Brown avec le krautrock allemand, l'expressionnisme allemand, dans un cocktail surréaliste, plutôt belge. On peut bien dire qu'il va utiliser, exercer le funk de James Brown, mais évidemment, il ne va jamais jouer le funk comme James Brown. Il en fait une version à lui-même, quoi. Le grand changement, évidemment, chez Tissimatic, c'est lui le patron. Et il faut noter qu'il a 31 ans déjà. Deuxièmement, le style qu'il a change radicalement. Avant, on peut dire que ce n'était pas vraiment développé. Il a eu une période un peu dandy, quoi. Mais avec Tissimatic, il y a vraiment une esthétique, tout d'un coup, expressionniste, quoi. Et le responsable de ça, en partie, c'est Danny Willems. Danny Willems, c'est un bon copain d'Arno et il était un photographe autodidacte et il était très inspiré par la scène artistique à Berlin. Et donc c'est Danny qui a fait les pochettes de Tissimatic, très expressionniste quoi, et qui a aussi créé la lumière pour les concerts. Bon, les concerts de Tissimatic, j'en ai vu pas mal, peignaient vraiment dans une lumière blanche. C'était que ça. Et les mecs avaient tous un costume. Et en tout cas, c'est le moment où Arno a commencé d'avoir des costumes. Et ça s'est resté pour le reste de sa carrière, en fait.
Elle adore le noir. C'est l'un des titres de Tissimatic. Avec du tango encore, mais cette fois il est synthétique. La chanson est inspirée par Marie-Louise, grand-tante d'Arno, qui tenait une maison close à Ostende. Quand Tissimatic apparaît, quelle est la situation de la scène musicale belge? Est-ce que c'est un groupe comme il y en a plein d'autres? Ou est-ce que c'est un groupe qui vraiment détonne?
En 1975, on avait la première grande période de ce qu'on appelle du bell pop, qui était une rupture avec l'époque hippie. Il y a plein de nouveaux groupes de toutes sortes, mais dans tout cet ensemble, Tissimatic était assez unique, puisqu'il faut noter que Quand on voit le groupe, le guitariste de Tissimatic, il venait de la scène qu'on appelle Kleinkunst, c'est un peu la chanson flamande, quoi. Les synthés, c'était un mec qui venait de la scène variété, mais qui avait une éducation du conservatoire. Alors, la section rythmique était très mécanique, et en plus, on avait Arnaud avec son background blues et variété. Donc, c'était un mélange très, très, très unique, et il faisait un style que personne ne faisait. En plus, ils étaient très ambitieux. Ils voulaient prouver qu'un groupe qui venait de la Belgique pouvait conquérir le monde.
Et ça a marché ?
Ça a marché sur le plan d'influence, puisqu'il y a beaucoup de groupes qui étaient très influencés par Tissimatic, ou impressionnés par Tissimatic. Par exemple, la Mano Negra. Manu Chao a toujours dit que Tissimatic était une grande influence. Mais pour vraiment lancer un groupe, il faut plus, il faut une structure, il faut de l'argent, il faut une permanence pendant quelques années, et c'est ça qui manquait. Et en plus, le groupe était tellement original et radical, avant-gardiste, quoi.
Vous vous en doutez, ceci n'est pas un morceau de Tissimatic, mais vous l'avez reconnu, le dernier mouvement de la 9e symphonie de Beethoven, plus connu sous le titre d'Ode à la joie. En 1972, le Conseil de l'Europe adopte l'Ode à la joie comme hymne officiel. 10 ans plus tard, en 1982, un autre hymne s'impose. Mais il est officieux, celui-ci.
Je trouve toujours rigolo un peu, c'est que Putain Putain est une des chansons d'Arnaud dans lesquelles il chante en patois ostendé. Et j'ai vu ça à Paris, des Français qui chantent avec les chansons, et je me demande toujours est-ce qu'ils comprennent en fait ce qu'il dit là.
Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il dit ?
C'est un hommage au pénis. Et maintenant je vais traduire ça pour vos écouteurs. Un long et mince vous fait vous sentir bien à l'intérieur. Moi, j'ai un petit, mais je tire loin. Ben voilà, tout d'un coup, dans une chanson d'Arnaud qui est un hommage à l'Europe, c'est typiquement Arnaud ça. En fait, ce truc, c'est du folklore ostendais, et c'est des choses qu'il entendait dans sa jeunesse, et qu'il met de temps en temps dans ses chansons, comme ça, tout d'un coup, comme des objets trouvés.
C'est la particularité de son écriture, ce côté collage.
Oui, on peut dire collage. C'est un aspect important de son style. Puisque quand on compare avec Brel, par exemple, il a fait ça aussi, mais un petit peu. Par exemple, on se rappelle Marieke, « Zonder liefde warme, liefde white, wind, warme wind hein? ». C'est romantique chez Brel. Chez Arnaud, c'est différent, c'est cassant, c'est partout. En fait, on peut dire que trois quarts des chansons de Tissimatic sont multilingues. Donc, non seulement anglais et français mélangés, mais aussi de l'espagnol, de l'allemand et du patois ostendais. Et plus tard, quand il a commencé sa carrière solo et s'est développé en France, les chansons étaient soit en anglais, soit en français.
Tu penses que les femmes m'adorent? Tu penses que mon nez n'est pas trop grand? Tu penses que je suis intelligent? Tu penses que je pense? Et moi je veux nager encore une fois avec toi. Et moi je veux nager. Ma femme n'est pas là.
J'ai jamais bossé.
Arnaud, dans Éclectique, le 12 septembre 2010.
Donc ça vient impulsif. Mais moi, enfin, on m'a dit que j'écris des chansons comme je parle. Donc j'écris aussi des chansons à quatre temps.
Comme le blues?
Ouais. C'est l'instinct. J'écris très vite aussi. Et je pense pas beaucoup quand je... Mais je paye naturellement la facture de temps en temps après aussi.
Pourquoi?
Ah bah, que c'est raté, quoi.
Ah oui?
Ah oui.
Mais que c'est raté, c'est-à-dire que vous réécoutez et vous dites « Oh, ça va pas ».
Ouais, ouais. Ça arrive, hein. Par exemple, il y a une chanson sur mon dernier album que j'aime pas. C'est Popstar. J'aime pas cette chanson. Je trouve ça con. Quand j'écoute ça maintenant, je suis génie. Mais c'est trop tard.
Je suis pas James Bond. Tu penses que je peux être une star? C'est beau. Tu penses que j'ai une tête de veau?
Mais même en français, il a une langue particulière.
Au début, il ne connaissait pas très bien la langue française. Je pense pas qu'il ait beaucoup de cours de français à l'école, mais je sais dès le moment qu'il a commencé à vivre à Bruxelles, il avait une copine française qui lui a appris pas mal de choses, mais il ne veut pas parler français comme un français, disons. Il veut parler le français comme Arnaud. Donc, j'ai souvent eu l'impression que c'est délibérément qu'il fait des fautes, qu'il a ses expressions à lui-même. Il a une fois raconté ça avec une comparaison avec une bouteille de Coca. La bouteille de Coca-Cola, comme vous savez, a une forme particulière que tout le monde reconnaît tout de suite. Et Arnaud a dit, moi, je veux être comme une bouteille de Coca-Cola. Quand on me voit, quand on m'entend, on doit tout de suite savoir, c'est Arnaud. La musique, la langue, tout. Quand on prend l'ensemble des 250, 60, 70 chansons qu'il a écrites, c'est quand même pas rien, hein, on apprend beaucoup sur lui.
Comme ça, et dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lune.
chose d'une allumeuse, quelque chose d'une emmerdeuse. Et dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. Et dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. Oh, et dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. Et dans les yeux de ma mère.
Pop & Co, Rebecca Manzoni sur France Inter.
Et aujourd'hui, Pop & Co et Pop & Arnaud.
Normalement, Jane et Rebecca, vous êtes en ligne, toutes les deux.
D'accord, d'accord.
C'est donc Jane Birkin qui est en ligne pour ce Pop & Arnaud. En 2016, elle participe notamment au documentaire que Pascal Poissonnier consacre à Arnaud, sous le titre « Dancing Inside My Head ».
J'étais connue avec les cheveux noirs et blancs. Les garçons peuvent vieillir tranquille. Comme c'est une grande injustice.
Comme une bonne bouteille de vin rouge.
Eh oui, mais c'est vrai.
Mais t'es belle aussi, hein, dis. T'as de la chance aussi. Hein.
J'ai de la chance.
Ah bah t'es belle, dis, allez.
Eh, écoute. Allez, je me taille.
Oui.
Bah, j'ai chanté pas mal de fois avec lui. On cherchait des excuses pour être ensemble et il n'y en a pas deux comme lui. Follement romantique, mais ne voulant jamais être sentimentaliste. Il avait un rendez-vous avec Michel Piccoli, il était en retard. En fait, il avait une trouille de son héros, Michel Piccoli. Mais comme excuse d'être en retard, il a dit « Je regardais une cul d'une fille ». Et voilà, c'était ça son excuse. Et c'était même pas vrai, mais c'était tellement drôle que Michel l'a trouvé génial tout de suite.
Comment c'est de chanter avec Arnaud, parce que vous avez notamment interprété Elisa tous les deux en duo?
Oui, on pense que ça va être difficile parce que ça a l'air anarchique, mais pas du tout en fait. Tout est en place, parfaitement. Quand il chante avec vous, on est en sécurité totale. Parce que quand on chante avec quelqu'un, c'est toujours un petit peu inquiétant de savoir si on va arriver de le faire. Et avec lui, il n'y a aucune angoisse. Il est le contraire de quelqu'un de prétentieux. Alors il en fait comme si c'était rien du tout. C'est léger. Lui en studio, c'est une grande joie. Une très grande joie.
1988. Arnaud n'est pas en studio, mais sur un plateau télé de la 5. Thierry Ardisson fume des clopes à l'écran et devise avec Arnaud au comptoir des bains-douches. L'émission s'intitule « Bain de minuit ».
Béatrice Dalle, génial. Arnaud, dingo.
Arnaud, il y a une chose qui est sûre, c'est que ce que tu fais, ça va marcher. Tout le monde en est persuadé, ça va être un grand succès.
Mais tout le monde dit ça, mais...
Mais t'as fait quoi? T'as fait un album avant celui-là déjà, tout seul, non?
Ouais.
Qui a marché?
Je sais pas que ça marche. Moi, je mange toujours sur mes pieds.
Ouais.
Et toi?
Moi aussi. Pourquoi tu l'as appelé charlatan, ton album? C'est pas très charlatan, quand même.
Moi, je trouve que c'est un bon mot, charlatan.
Ouais.
Et donc, Charlatan est le deuxième album solo d'Arnaud, paru en 1988. Et c'est le disque qui change tout. Le groupe Tissimatic s'est séparé, et une fois de plus, il y a cette question. Trouver un nouveau son. Ça va se faire grâce à un producteur qui s'appelle Holger Ksuke, l'un des cofondateurs du groupe allemand Can. Avec Holger Ksuke, Arnaud mélange rumba tordue, tango, blues rock, chanson, musique électronique.
She's a bathroom singer, ding-a-ling-a-ling.
C'est un album qu'il faut absolument réécouter pour comprendre Arnaud. L'album sort et les critiques entendent un album de grande authenticité, de grande musicalité, qui ne fait pas partie de la mode de ce jour. Il a aussi vraiment trouvé son son sur lequel il a continué à jouer depuis. Donc c'était un très grand succès. Il a multiplié ses ventes par 20 en fait.
Avec Charlatan, et pour la première fois depuis ses débuts, Arnaud va enfin pouvoir vivre de sa musique à peu près correctement.
Arnaud a vécu longtemps dans la précarité. Après son temps scolaire, il était sous-chef dans des bons restaurants à Ostende. Il pouvait vraiment faire une carrière puisqu'il paraît qu'il était bon, mais il a décidé de choisir pour la musique et du coup, il n'avait rien. Donc, de ce moment jusqu'à, je pense au moins jusqu'à Charlatan, son deuxième disque solo, on parle maintenant de 88, ça fait quand même presque 20 ans, il a quand même vécu d'une façon assez pauvre. Il logeait chez des gens dans leur appartement, il n'avait pas beaucoup à manger. Tout ce qu'il gagnait était investi dans le groupe. En Belgique, c'est un peu la réalité. C'est un petit pays, il n'y a pas beaucoup de moyens. Et quand un groupe veut conquérir l'Europe, c'est leur investissement. Donc, il vivait très basique pendant longtemps. Et en fait, je pense que c'est seulement dans les années 90 et même plus tard, avec les investissements qui venaient de la France, qu'il a vraiment commencé à gagner de l'argent.
Donc finalement, à l'âge de plus de 40 ans.
Oui, exactement. Tout ce qui est matériel n'a pas d'importance pour lui. Il ne veut pas avoir de luxe, il n'a même pas ses propres disques.
J'ai vu les Robert des Anglaises, des maigres et des obèses, mais je préfère ceux des Françaises. J'ai vu elle avec elle, j'ai vu lui avec lui, et tout cela finit en problème. C'est le tango de la peau. La peau, c'est chaud. C'est le tango de la peau. La peau, c'est chaud.
Avec Charlatan, Arnaud en solo va donc se faire remarquer en France. Emmanuel de Burtel, responsable d'une maison de disques, l'inscrit au catalogue du nouveau label qu'il veut créer. Et pour la première fois de sa vie, Arnaud est accompagné d'un manager.
Donc, tout d'un coup, Arnaud a un manager professionnel et a une maison de disques jeune et ambitieux. Ça change tout. Tout d'un coup, il y a les grands budgets, le grand public, puisqu'il peut faire beaucoup plus de concerts en France, et ça peut démarrer. Et on peut dire que là, le succès d'Arnaud est pour une bonne partie fait en France.
Et Arnaud, parti en Amérique. Direction Nashville. Pour enregistrer un nouvel album solo, Idiot Savant, c'est le titre.
Donc je suis à l'aéroport à Bruxelles pour partir à l'Amérique pour faire un disque là-bas, à Nashville. Et j'ai acheté une cassette avec les tubes d'Adamo. Et j'ai pris ça avec moi à la maison, à l'Amérique. Et un jour, donc je suis en train d'enregistrer mon disque là-bas, et un jour j'ai fait à manger pour mes musiciens et des Américains, je travaille avec, parce qu'on m'a donné une maison. C'était dans le temps que les maisons de disques, ils ont encore de l'argent. Tu vois le bazar. Et j'ai une maison là-bas et j'ai invité tout le monde pour manger. Et on a bu et tout le bazar. Et je laisse tout le monde et je vais dans ma chambre. Et j'ai un peu le cafard parce que j'étais dans le temps avec avec une mademoiselle, enfin une Lyonnaise, quoi, la mère de mes enfants dans le temps. Et j'ai eu le cafard parce que j'ai eu pas de nouvelles d'elle. Et j'ai dit, elle est avec le plombier ou avec le... Quelqu'un, je suis quoi. Et je trouve la cassette, j'ai dit, je vais écouter une fois la musique européenne. Et je mets ça sur la cassette, la fille de bord de mer. J'ai dit, tiens, mais c'est génial, c'est... Il chante, joie, 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 c'est drôle. Et le lendemain, je suis rentré au studio.
À Nashville, donc.
À Nashville, oui, oui. Et j'ai dit à mon accordéoniste, allez, on va une fois chanter La fille du bord de mer. Et on commence de chanter ça. Et les Américains disent, wow, what a song, let's record it. Et je dis, mais écoute, c'est pas... Donc c'est une blague, je vais pas enregistrer. Donc en plus, c'est pas une chanson de moi. C'est une reprise. Comment? Il faut le faire.
Je me souviens du bord de mer avec ses filles au ton si clair. Elle avait l'âme hospitalière. C'était pas fait pour me déplaire. Naïve autant qu'elle était belle, on pouvait lire dans leurs prunelles qu'elle voulait pratiquer le sport pour garder une belle ligne de corps. Et encore, j'aurais pu danser la java. C'était chouette, les filles du bord de mer. Chouin, 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 c'était fait pour qui savait y faire. Chouin, chouin, chouin.
Et Arnaud devint une icône belgo, anglo, franco, bref, européenne. En 2008, il joue une scène culte au cinéma. Le film s'intitule « J'ai toujours rêvé d'être un gangster », réalisé par Samuel Benchetrit. La séquence se passe dans un bar, Arnaud est attablé, et en face de lui, il y a Alain Bachung.
Enfin, je peux te dire, on se connaît, mais un de tes plus grands succès que tu as fait, c'est une chanson de moi que tu as piquée de moi.
Quoi?
Mais c'est pas grave, hein, c'est... On s'en fout.
Et quelle chanson de...
Bah, c'est le truc là que tu as fait. Gabi.
Oui, je vois très bien, oui.
Tu m'as piqué ça.
Tu penses que je t'ai piqué cette chanson?
Moi, j'ai fait Sandy, et toi, tu as fait Gabi. C'est pas grave. On s'en fout.
Que je pensais pas t'avoir piqué cette chanson. Maintenant que tu me parles de ça, c'était peut-être un acte manqué.
Comment ça?
Ben, comme tu t'étais barré avec Swan, j'ai peut-être inconsciemment reproduit cette chanson.
Swan?
Tu te rappelles de Swan? Une fille superbe, une Cambodgienne avec qui je vivais à l'époque. Elle s'était barrée avec toi.
Ah oui, 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 oui. La Swan, la grande, là.
Ouais, ah, voilà.
Oui.
C'était même eu cette fille-là. J'ai eu du mal à m'en remettre.
Merde.
L'un des hommes qui vont compter dans l'œuvre d'Arnaud s'appelle John Parrish. Il est anglais et trouve le son des trois derniers albums inédits d'Arnaud.
Old too soon, smart too late, young too short, stupid too long. There's a time in life you have to protest. There's a time in love you have to take a rest. Je suis un vieux motherfucker. I'm just an old motherfucker.
C'est une tonalité plus sombre, donc c'est un mec qui a connu une dépression dans sa vie, qui a vu son père mourir sans avoir eu le courage de vraiment communiquer avec lui, ça s'est jamais passé, et qui voit aussi que le monde est en train de dégrader avec le succès de l'extrême droite. Et donc, il y craint pour l'avenir du monde et de ses enfants. On voit bien, par exemple, Please Exist, une de ses chansons. Lui, un non-croyant, il adresse le bon Dieu pour lui demander d'intervenir. C'est un autre Arnaud, vraiment plus noir. Quand j'étais jeune, quand j'avais 18-19 ans, j'ai fort apprécié un homme qui montrait qu'on pouvait être original dans un paysage qui, dans le temps, était très conventionnel, dans le Flandre catholique. Mais, au même temps, il rendait hommage à des éléments traditionnels, folkloriques même. Donc, la musique d'Arnaud est très belge et très européenne, et international à la même fois. C'est quand même une grande mérite. Je sais qu'il a inspiré beaucoup de musiciens en Belgique, comme Deus par exemple, en montrant que vivant en Belgique, petit pays, qu'on peut quand même faire bouger les choses. Je vais citer un de vos compatriotes, Michel Piccoli, qui était un grand copain d'Arnaud. Piccoli disait que Arnaud était extravagamment sincère.
I almost lost my head. Of all the things I said, like I said before, I'm just a lonely solo gigolo. At the bar, nobody is missing. In my head, the moon is smiling. I let it flow, real slow, real slow. Are you with someone else? Or just with yourself? Nothing has changed. By the way, how are the kids today?
Je suis un fan de Brel, Jacques Dutronc, je suis un fan, et Mireille Mathieu.
Entre Mireille Mathieu et Jacques Dutronc, il y a beaucoup, beaucoup de différences quand même.
Oui, oui, mais ça ne veut dire rien, hein. Parce que Mireille Mathieu, pour moi, c'est comme la Tour Eiffel. Elle a une voix incroyable. Tout le monde connaît, dans le monde entier, elle est connue. Hein.
Il se murmure que pour son prochain album, Arnaud enregistrerait un duo avec Mireille.
You don't need me anymore. It doesn't matter anymore. Like I said before, I'm just a lonely solo gigolo. In your head, the moon is crying. In my heart, the sun is shining. Like I said before, I'm just a lonely solo gigolo. Like I said before, I'm just a lonely solo gigolo.
Merci à Arnaud, Peter Van Tinghem du journal de Standard, Jane Birkin, Cyril Prieur et Laetitia Juanco. Vivre, c'est le titre du dernier album d'Arnaud. Son prochain disque est attendu pour l'été prochain. Et je vous signale une biographie dans laquelle j'ai puisé pour écrire ce Pop & Co. C'est Arnaud, putain, putain, une biographie. Elle est signée Gilles Deleu. Et le livre a paru aux éditions Le Mot et le Reste. Lui a fait un duo avec Arnaud. C'était pour reprendre « Ils ont changé ma chanson ». Il s'appelle Stéphane Echer. Son nouveau morceau, diffusé en ce moment sur France Inter, c'est celui-ci. « Autour de mon cou ».
qui serre autour de ton cou. C'est dans l'atmosphère, c'est bien fait pour nous. Si nous manquons d'air, si nous devenons fous, jetons-nous des pierres, éclaboussons-nous. C'est pas moi qui serre autour de ton cou. C'est comme une vipère qui sort de son trou. Trop de laisser faire, trop de laisser-nous. C'est pas moi qui serre autour de ton cou. Tu la voulais fière, tu l'as mise à genoux. Trop de somnifères, trop de ventres mous. C'est pas moi qui serre autour de ton cou. C'est pas moi qui serre autour de ton cou. C'est comme une vipère qui sort de son trou. C'est lui de ses galères, c'est tous ses écrous. C'est pas moi qui serre ton cou. C'est comme une vipère qui sort de son trou. Trop de laisser faire, trop de laisser nous. Son trou, c'est lui de ses galères, c'est tous ses écrous. C'est pas moi qui sers autour de ton cou.
Ce Pop and Arnaud est dédié à la mémoire de Bernard Chérez, qui fut directeur de la musique de France Inter au début de ce siècle. Goyen Guyen a réalisé cette émission avec Clément Berman ce matin. Ilinka Negulesco a préparé l'émission et Jean-Baptiste Audibert aiguille la programmation musicale. La semaine prochaine, Pop & Co et Stevie Wonder suivra le récit d'une épopée, celle d'Eddie Barclay. À samedi.